Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Un récent sondage effectué par l'Institut français d'opinion publique a révélé, contre toute attente, qu'une grande majorité de Français croient en Dieu, environ 55%. Il faut ajouter que ce pourcentage inclut non seulement ceux qui tiennent l'existence de Dieu pour certains, mais aussi ceux pour qui elle n'est que probable. Tout de même, 55% de croyants, c'est beaucoup, peut-on penser. Et on peut être très agréablement surpris. Puis vient le moment de la réflexion. Pourquoi c'est étonnant en prenant connaissance de ces statistiques comme les enquêteurs eux-mêmes? Parce que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. Quand on considère d'autres statistiques, pourtant sur les divorces, les suicides, 3 toutes les heures en France, quand on constate les progrès de cette moralité que l'on dit nouvelle, mais qui n'est en fait que le visage démasqué de l'ancienne immoralité, ou simplement quand on constate la vie de tous les jours, faite d'actions, de réactions, de paroles, loin de refléter la foi en Dieu, on est bien obligé de se dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait en France la moitié de croyants parmi la population adulte. Et puisqu'ils se déclarent croyants, quel genre de croyants sont-ils pour la plupart? Sait-on ce qu'implique le mot croire? Ou ce terme a-t-il lui aussi subi une inflation qui lui a fait perdre toute signification précise? Là, en effet, se situe le drame, et le mot n'est pas trop fort. On passe allègrement du mot croyant au mot chrétien, comme si ces deux termes étaient synonymes. Ils devraient l'être, ils pourraient l'être, mais en fait, ils ne le sont pas. La plupart des croyants ne sont en effet que des gens qui ont intellectuellement accepté l'idée de Dieu. Pour les uns, c'est tout décidé, ils y croient, et pour d'autres, ce n'est encore que probable. Mais où est le Christ dans leur raisonnement? Où est-il dans leur croyance et dans leur vie? C'est presque un étranger dans beaucoup de cas. Et si l'on interroge ces croyants avec trop d'insistance, leur attitude semble dire « C'est déjà bien beau de croire en Dieu, mais non, on n'en est pas plus ». On pense immédiatement à cette remarque sévère de l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Tout dans les enseignements de Christ et de ses apôtres incite à la foi. Mais cette foi, cette croyance est un dynamisme. Elle ne mérite ce nom que lorsqu'elle se traduit et s'exprime dans la vie. Jusqu'à ce que foi et vie se confondent. C'est pourquoi il est écrit, « Veux-tu savoir, ô vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il faut noter que cette foi vaine ou insuffisante dont Jacques vient de parler n'est pas nécessairement la foi d'un hypocrite, mais d'une personne qui se trompe elle-même par de faux raisonnements. C'est vrai que les croyants sont sincères lorsqu'ils disent « je crois que Dieu existe ». Mais parce qu'elle se situe au niveau de la tête plutôt que dans le cœur, cette foi ne porte pas de fruits. Elle demeure stérile. Elle est morte. Jean applique ce même principe à l'amour. Aimer, ça ne se dit pas. Ça se démontre. Petits enfants, écrit-il affectueusement, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Parallèlement, Jacques aurait pu dire, petits enfants, ne croyons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Nous avons dit tout à l'heure que le Christ est presque totalement absent de la foi de nombreux croyants, et que ces croyants ne professent en réalité qu'une vague idée de théisme. Que peut valoir cette foi sans une connaissance du Christ qui est venu rendre Dieu accessible et présent parmi nous, et sauver les pécheurs que nous sommes? Jésus dit, croyez en Dieu, Mais il ajoute aussi, et croyez en moi. Un peu plus tard, il dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Selon cette parole, il est impossible d'accéder à Dieu sans connaître le Christ, sans croire en lui. Il est l'itinéraire indispensable, mais combien négligé, combien méconnu. D'autre part, comment peut-on croire en Christ, apprendre à le connaître et à l'aimer, si nous ne lisons jamais les Écritures? Les récits et les enseignements de ces témoins directs sont là, mais les connaissons-nous? L'ignorance presque totale du Nouveau Testament, deuxième partie de la Bible, parmi les croyants, est incroyable, affligeante. Il est significatif de constater combien de fois Jésus parle de sa parole comme génératrice de vie, de foi, de salut. Si quelqu'un m'aime, dit-il, il gardera ma parole, la parole que vous entendez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, etc., etc. De même, l'apôtre Paul écrit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pareillement, l'apôtre Pierre compare la parole de Dieu à une semence incorruptible, vivante et permanente. Il faut donc se familiariser avec cette parole. Il faut donc l'entendre, ou la lire, la méditer, car il n'y a pas d'autre moyen de connaître le Christ. Il n'est pas possible d'accepter Dieu sans accepter son Christ. À ce point, utilisant un terme exploité par l'apôtre Paul, nous pouvons dire, comment croiraient-ils s'ils ne veulent pas se donner la peine de faire sa connaissance dans les Écritures? On peut dire qu'il n'est pas le chrétien possible sans un contact sérieux avec cette parole, dont il est écrit qu'elle peut sauver vos âmes dès qu'elle est plantée en vous. Au contact de la parole de Christ dans les Écritures, le croyant cesse d'être une personne qui demande sans cesse « Qui es-tu, Seigneur ?» Une autre question bien plus importante jaillit de son cœur. « Que dois-je faire, Seigneur ?» C'est un état de disponibilité à la volonté de Dieu. C'est cette question qui distingue le croyant authentique de tous les autres. C'est elle qui fait qu'un chrétien n'est pas comme tout le monde. Le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, aussi important que moins connu, nous apprend que l'existence du vrai chrétien commence d'une manière bien définie, bien solennelle. C'est le jour de son baptême. Auparavant, il croyait en Dieu. Puis il a fait connaissance du Christ et de son message. Quand il a cru en lui, il s'est fait baptiser. L'apôtre Paul parle du baptême comme d'un ensevelissement avec le Christ et une résurrection avec lui dans une vie nouvelle. Le croyant participe ainsi à ces deux événements qui le concerne personnellement. À ceux qui lui demandaient « Que devons-nous faire ?», Pierre répondit sans hésitation « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Plus tard, dans une de ses lettres, Pierre explique que le baptême n'est pas un rite purement extérieur. Il constitue un engagement de la conscience envers Dieu, fondé sur la résurrection du Christ. Et c'est en cela qu'il sauve le pécheur. Mais combien de croyants ont pris cet engagement envers Dieu et envers Christ? Combien de croyants ont vécu ce moment qu'on appelle la conversion? Le croyant qui vient au baptême et qui scelle ou confirme ainsi sa foi, sait bien qu'il n'est qu'un enfant dans la foi, un nouveau-né selon l'image biblique, et que sa véritable vie ne fait que commencer. Mais s'il n'est qu'un enfant, il est toutefois un enfant de Dieu, né dans sa famille, né d'eau et d'esprit. C'est alors qu'il peut appeler Dieu son Père, avec tout ce que cette invocation comporte comme affection promise, soutien et bénédiction. Sa vie de chrétien commence réellement. Il a conscience d'être un disciple, c'est-à-dire un élève qui marche dans les traces de son maître. Il apprendra à agir et à réagir comme lui, à penser et à parler comme lui. Il saura accueillir l'épreuve et la souffrance aussi, non pas avec la surprise indignée de celui qui se demande ce qu'il a bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça, mais avec la préparation équilibrée d'un disciple qui sait très bien que l'épreuve est nécessaire à la foi, qu'elle constitue un moyen de monter et non pas un obstacle à la foi. À cause de l'orientation nouvelle qu'a pris sa vie, il veille à ne pas se laisser influencer par les couleurs, les lumières et les bruits spectaculaires de son siècle. Il sait que l'essentiel est souvent d'apparence discrète et insignifiante. Et c'est pour l'essentiel qu'il vit, il connaît la valeur des choses et des événements, car il les juge à la lumière révélatrice de la parole. Il ne se laisse gouverner ni par le camp du raton, ni exclusivement par sa conscience, ni par les directives de la parole du Christ, telle qu'elle est révélée dans les Écritures. C'est le secret de sa force et de son équilibre. L'Esprit de Dieu travaille en lui. Ce n'est pas un portrait type du chrétien idéal que nous voulons brosser, loin de là. Nous voulons rester réalistes et parler de ce qui est accessible à tous. Nous avons surtout voulu souligner la différence qui existe entre le croyant qui affirme avec la bouche qu'il croit en Dieu et le chrétien qui a subi une transformation en rencontrant le Christ. Il sait pourquoi il croit et exactement en qui il met sa confiance. En Christ, il a trouvé le véritable sens de la vie. Et c'est ce qui manque à beaucoup de croyants, c'est-à-dire à la fois sa direction et sa signification. Ça lui permet d'éliminer de son existence tout ce qui tend à le détourner de cette orientation. C'est un travail de purification. La Bible dit « sanctification » qui exige de lui lucidité, courage et vigilance. Bien sûr, le chrétien est encore loin de la perfection. Mais ce qui le distingue des autres, c'est qu'il ne cesse d'essayer de faire le bien et d'être meilleur. Non pas pour sa satisfaction personnelle, mais pour la gloire de Dieu. Il a un idéal. C'est alors qu'il peut dire qu'il est croyant. Qu'importe s'il tombe en chemin, l'important, c'est qu'il se relève pour reprendre sa route. C'est à cette vie abondante et supérieure que le Christ appelle tous les hommes. Elle respire par la prière. Elle se nourrit de la parole de Dieu. Elle se fortifie par le témoignage et l'œuvre de sanctification. Mais comme le dit justement le penseur Michel Croix, la religion de l'homme ne restera toujours que geste vide de sens, vague sentimentalité, recherche de sécurité ou simple habitude sociologique, tant qu'il n'aura pas intérieurement accueilli Jésus-Christ. Or le Seigneur est vivant dans l'Évangile.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Éducation biblique vous a-t-il offert par Jacques Marchal qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres, toute autorité dans le parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition. Sans engagement, écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse Cedex. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086, Toulouse, Cedex, France. Au revoir, à la semaine prochaine, même heure, et que le Seigneur vous garde.
Alléluia, alléluia.